Bonjour à toutes et à tous. Nous avons rendez-vous cette semaine avec Étienne Le Picard, directeur de la Maison du Pressoir, Beit Agat, à Jérusalem, qui est niché au cœur de ce quartier très prisé, très verdoyant, très paisible, qu'est Ein Kerem. Étienne Le Picard, bonjour.
Bonjour.
Alors, quand est née et d'où est née cette maison d'hôte, qu'est la Maison du Pressoir, un endroit où on ne rencontre pas que des Juifs, n'est-ce pas ?
Pas que des Juifs, non, pas tout à fait. c'est une terre catholique qui était l'ancienne ferme des sœurs du couvent des sœurs de Notre-Dame de Sion qui sont à côté de nous à Ein Kerem. Et alors nous y sommes arrivés il y a bien longtemps, en 1992.
D'accord.
Et c'était une comment dire, nous on était deux catholiques, deux chrétiens qui sommes venus de France pour vivre cette aventure d'être minoritaire en Israël et de voir ce que ça faisait sur notre propre... Il y a longtemps que des chrétiens n'ont pas été minoritaires dans une majorité juive, disons. Donc voir ce que ça faisait sur notre propre foi et notre propre tradition religieuse. Et puis est venue l'idée, mon collègue à l'époque était guide, avait fait l'école des guides, et donc recevait des pèlerins et qui nous ont demandé de trouver un lieu où on pourrait aussi les accueillir. Et donc jusqu'à l'an 2000, qui a été jusqu'à la deuxième intifada, on était essentiellement un lieu qui recevions des pèlerins français, de juifs, chrétiens. Voilà, et avec cette originalité de pas simplement visiter, rencontrer les vieilles pierres, mais d'aussi rencontrer les gens. C'était ça notre particularité.
Oui, alors justement, dans cette intention, dans cette perspective de rencontrer des gens, eh bien, vous vous êtes forgé d'amitié et vous avez forgé des relations avec des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas catholiques. D'où est née cette terre d'accueil, finalement, n'est-ce pas ?
Voilà. Alors après, bon, il y a l'histoire du pays qui nous façonne aussi, puisque avec la deuxième intifada, toute cette activité d'accueil de pèlerins s'est arrêtée net, hein, et qu'on a été pendant 2 ans sans recevoir personne. Mmh. Et par contre... a grandi dans le pays, effectivement. Et puis on a aussi senti ce besoin-là. Mon collègue qui était guide de pèlerinage, lui, est reparti en France. Et moi, je suis resté parce que j'ai eu un poste à l'université de Tel Aviv à l'époque. Et avec le monastère bénédictin d'Abou Gosh, qui est un peu le lieu d'église qui nous aide et qui nous soutient dans le pays, on a pensé que la maison se justifiait en elle-même en tant que lieu de relations interreligieuses dans le pays. Mmh. Et à ce moment-là, j'ai mis un peu au centre de nos activités le concept de culture. Parce que on n'est pas un lieu où on fait des séminaires, où on se rencontre, on discute des choses, on est un lieu où les gens se rencontrent les uns les autres. Mmh. Et donc, il faut bien se rencontre autour de choses concrètes. De la musique, de la nourriture, un concept de culture qui est très vaste, mais autour de choses concrètes.
Oui. D'ailleurs, pourquoi ce nom ? Ça m'interpelle, la Maison du Pressoir.
La Maison du Pressoir, ben ça a été, c'est simple. C'est parce que Ein Kerem est un lieu, est un village où on pressait les olives. On est dans une région d'olives, d'oliviers. Mmh. Et donc c'était un lieu où il y avait 6 pressoirs à huile au 19e siècle. Et les sœurs de Sion, à l'époque, quand la deuxième moitié un quart du 19e siècle, quand elles ont développé leurs activités ici à Ein Kerem, elles ont dans cette maison qui était la ferme de leur monastère, elles ont installé un pressoir à huile. Donc c'est un des derniers qui reste dans Ein Kerem. Qui ne marche pas, mais qui est monumental, qui est beau. Donc il trône au milieu de la maison d'hôte en bas.
D'accord. Alors quand on parle donc du rapprochement vers les autres, vous trouvant au cœur de ce quartier verdoyant, comme je disais, de Nkarem. Quelle est cette relation que vous entretenez avec les alentours, avec les gens aux alentours, avec les juifs qui vivent aux alentours, et également avec les musulmans, avec les arabes en général, avec les musulmans en particulier, qui vivent aussi aux alentours? Comment qualifieriez-vous cette relation?
C'est essentiellement une relation d'amitié toute simple, hein. Ça a toujours été ça notre particularité. C'est l'amitié qui a entraîné les choses. Et c'est vrai que l'histoire a fait que actuellement on se retrouve à être trois à gérer la maison, un juif, un chrétien, un musulman. Yuval Bankowski, et qui est arrivé ici comme un étudiant qui cherchait un lieu pour pouvoir contre un volontariat pour pouvoir terminer ses études, et puis qui finalement s'est marié, puis qui est resté, qui a deux enfants, qui vit sur le terrain aussi. Et puis Mohamed El Haraj, qui est un musulman de Waladjé, qui est un petit village paisible de la zone C, près de Beit Jalla et Jérusalem, et dont la plupart de la famille qui travaille lui-même, et la plupart de la famille vivent sur Nkarem, travaillent sur Nkarem. Et c'est, voilà, il nous a rencontrés parce qu'on avait fait un appel d'offres pour une construction, comment on dit en français, un entrepreneur. Et ce que nous vivions lui a rappelé la manière dont son père les avait élevés, puisque son père était factotum au monastère de Crémisan, qu'il a élevé ses enfants en leur disant: vous êtes musulmans, mais il y a aussi d'autres gens qui existent, d'autres religions, et c'est important de cette relation. Et quand il nous a découvert, il a voulu continuer de vivre ça à sa génération. Et ça, c'est un peu quelque chose qui caractérise la plupart d'entre nous, la plupart du groupe d'amis qui s'est retrouvé autour de la maison. C'est qu'on se sent on est dans une histoire de relations interreligieuses. Et pas simplement, on n'est pas en train de tout inventer, mais il y a des gens qui nous ont précédés. Et on espère que les enfants aussi porteront ça après.
D'accord. Alors, on se trouve maintenant à une époque où on vient de sortir de ce voyage qui est Pessah, la Pâque juive. Un moment aussi où, même il y a quelques semaines, où on est sorti de cette période de résurrection. Alors justement, pour ces nouvelles périodes, quelles sont les activités que vous envisagez pour cette nouvelle saison, on peut dire?
Disons d'abord que les périodes de fête comme ça, et ce sera vrai aussi avec la Pentecôte ou avec le Yom HaAtzmaut qui arrive, c'est toujours des périodes où on se reçoit les uns les autres. Hein, et souvent les amis israéliens viennent chez nous pour Noël et nous allons chez eux pour le Seder de Pâques. Et ça, c'est quelque chose... c'est une des dimensions importantes de la maison. Et puis après, il y a effectivement des activités que nous avons et qui ne sont pas forcément spécifiques à celle au temps qui vient, mais qui sont un peu tout autour, sur lesquelles la maison s'est structurée, qui sont d'une part, on a fait un partenariat avec un des grands chefs cuisiniers israéliens, Ezra Kedem, qui avait le restaurant Arcadia à Jérusalem. Et il reçoit un groupe interreligieux de jeunes malentendants. C'est un partenariat qu'on a fait avec une école de Kol Israël Chaverim de l'Alliance France, de l'Alliance juive, de l'Alliance qui est à Kiryat Yovel, et où ces jeunes malentendants qui vivent pas très loin de nous sont juifs, musulmans, chrétiens, et vers la fin de leurs études se spécialisent, donc les enseignants leur cherchent des métiers, dont la cuisine, et Ezra les amène à la grande cuisine. Ça, c'est un des... Ezra est quelqu'un qui croit beaucoup à la nourriture comme un langage, à la cuisine comme un langage, et donc il y a ce partage des traditions culinaires des différentes religions et cultures à travers son atelier. Après, il y a des groupes que j'anime moi avec Yuval Blankowski. Yuval Blankowski, il est docteur en Talmud. Et moi, j'ai fait des études, un parcours d'études de lecture de théologie.
D'accord.
Avec les jésuites à Paris. Et on enseigne ensemble à deux voix la Parashat HaShavua, par exemple. Et on s'est découvert aussi à travers ça. Et on découvre des choses en enseignant ensemble.
D'accord.
En voyant sur des Parashat HaShavua, pas en général, mais à partir des sages de la Mishnah et du Talmud et des pères de l'Église.
En faisant des recherches aussi sur la Maison du Pressoir, j'ai vu que vous collaboriez avec la Yeshiva Chilonit et cela m'interpelle parce que même dans le monde juif, c'est pas très connu. Cette école religieuse séculaire qui comporte toutes les contradictions dans le mot, mais
voilà.
qui est une réalité.
Oui, alors ça c'est venu. Pour l'instant, c'est suspendu pour des raisons techniques ils habitaient les jeunes habitaient dans un coin du village et venaient chez nous pour les études. Et puis là, ils ont été obligés de partir un peu plus loin pour des questions d'immeubles qui doivent passer d'une main dans l'autre.
D'accord.
Et c'est avec eux qu'on a développé cette Parashat HaShavua à deux voix. C'est venu en fait parce que eux ont cherché un lieu et on était en lien nous avec les Matnassim, les centres culturels du sud-ouest de Jérusalem. Et pour le centre culturel, socio-culturel de ce qu'on appelle du quartier des Yovelim, où il y a des questions de tension aussi entre religieux, pas religieux. Ein Karem est pour eux un peu un lieu de l'interreligieux et de l'interculturel. Et donc c'est le responsable de ce centre socio-culturel qui les avait envoyés chez nous. Et nous, ça avait fait tilt.
D'accord.
On a développé une coopération comme ça. Alors c'est vrai que leur concept est un peu contient toutes les contradictions en elles-mêmes. Mais en même temps, ça fait partie aussi de tout ce mouvement en Israël de jeunes qui sont des jeunes séculiers et qui en même temps cherchent des racines. Et ce qui nous avait intéressé pour nous, c'était de voir qu'ils souhaitaient que ces jeunes qui sont après l'armée, qui viennent passer 4 mois ensemble, qui vivent 4 mois ensemble et qui sont exposés à un certain nombre de cours et pas seulement, aussi d'activités, ils entendent parler aussi du christianisme et de l'islam. Et on souhaitait que ce soit avec ce contact direct et pas simplement quelqu'un qui vienne parler sur. Et donc, ils avaient un cours d'introduction au christianisme qui était fait par une israélienne. Et puis après, avec cet atelier que je faisais avec Yuval, il y a cette rencontre directe avec une tradition vivante.
Vous parlez de Ein Karem comme d'un village. Je me suis trompé au début, j'ai dit que c'était un quartier, mais c'est vraiment un village, n'est-ce pas?
C'est les deux. C'est un village parce que c'est un village. C'était un village avant qu'on y arrive, avant que l'État soit là. C'était le village d'Ein Karem, qui est quand même distant de Jérusalem. Et puis avec l'expansion de Jérusalem, c'est devenu un quartier, administrativement parlant, c'est un quartier de Jérusalem. Mais il y a une certaine distance. Ça reste un village parce qu'il y a une certaine distance géographique. Il y a la descente du mont Herzl jusqu'à chez nous, on traverse des bois.
Oui.
Et pas, ou de l'autre côté aussi. Donc ça reste, et ça garde ce caractère de village. Ça a été un peu comme le vieux Jaffa et le vieux Safed, le lieu un lieu d'artiste dans les années 50, dans les années 70. Et récemment, il y a eu à nouveau il y a pas mal de jeunes et de jeunes familles, donc il y a pas mal d'enfants. Et il y a eu au niveau juif, il y avait des synagogues, alors il y avait la synagogue marocaine, la synagogue yéménite, etc. Et puis dans ces dernières années, s'est développé aussi, par exemple, ce concept de minyan keilati, de synagogue communautaire, de tous ceux qui sont là et qui simplement parce qu'ils sont là, ils sont sur le même territoire. Et voilà, donc de ce côté-là, on est partie prenante de ça. Mmh. Alors c'est sûr que le fait que moi, catholique, célibataire, j'ai adopté deux enfants, et c'est sûr que ça a changé beaucoup les relations avec le village aussi, parce qu'il n'y a rien de tel que les enfants pour connaître des gens.
Et pour s'intégrer.
Pour s'intégrer, tout à fait. Mmh.